Cette création du système solaire. Dans la Genèse, le récit est en période, en temps. Sauf que ce mot est traduit par jour, depuis tellement de siècles qu'on ne va pas changer. Mais ce n'est pas des jours de 24 heures, c'est des temps. Premier temps de la création, la matière, la lumière. La lumière, c'est quoi? C'est la matière. C'est des quantités de matière qui sont lumineuses. C'est le, si vous voulez, le Big Bang. Tout ce qui peut se voir d'explosion, de rayonnement, parce que la matière explose, les frottements de la matière, et c'est la lumière. Mais qui dit création de la lumière au premier temps de la création, dit création de la matière. Le deuxième temps de la création, immédiatement, l'écrivain sacré, dans la révélation que lui fait Dieu, il se porte vers la terre. C'est la séparation du firmament et de la terre ferme. Au troisième temps de la création, cette terre, elle va accueillir la vie. Qu'est-ce que c'est que la vie au sens pas angélique? C'est de la matière qui bouge, qui n'est plus inerte, mais qui est associée à du vivant. Alors, au risque de vous choquer, ce qui anime la matière, en philosophie, s'appelle une âme. Vous voyez ? C'est un principe de mouvement autonome. Et Dieu, dans ces masses d'eau qui sont sur la terre, va créer la vie, des bactéries par milliards, des planctons par milliards. Vous voyez ? Et alors, cette création, elle n'est pas due au hasard et au temps. C'est pas la soupe originelle. La soupe originelle, ça serait des morceaux de matière qui s'associent tellement étroitement que ça fait des acides aminés et qui sont sous des pressions monstrueuses et des températures particulières font du, tout d'un coup, des bactéries vivantes. Or, on a beau essayer de concentrer d'abord des morceaux d'êtres vivants morts, hein, parce que les acides aminés ne viennent pas comme ça. On a beau essayer de lui, allez, sois vivant, on met de l'électricité, on fait comme que je parle, vous voyez. Mais tous ceux qui ont essayé d'électrifier un cadavre, à la fin, ça, c'est cuit de chez cuit. Vous voyez, mais c'est, le vivant est quelque chose d'extraordinaire. Hein. C'est immatériel. Donc l'âme des bactéries peut être immortelle. Mais en philosophie, on considère que l'âme des bactéries est anéantie lorsque la bactérie meurt. Il n'y a pas un paradis des bactéries où toutes les âmes des bactéries sont. Quand vous écrasez une fleur, un plant, voyez, là il est broyé et ça revient à de la matière disponible. Mais même un plant de tournesol a une âme végétative. Et cette vie qu'il crée, c'est la plante, c'est les poissons et c'est les animaux. Alors, par rapport à l'évolutionnisme vous dit que tout cela s'est fait sans intelligence. Une bactérie, vous voyez, c'est une cellule avec une centrale nucléaire, une usine d'énergie, qui sont les mitochondries, avec un noyau, un codage, un ARN, comme un ADN chez l'animal, du cytoplasme, une membrane, et c'est invraisemblable de complexité. Le plus petit être vivant qui se meut seul, mais on est incapable nous-mêmes de le faire inerte, de l'assembler inerte. En plus, c'est de l'infiniment petit. Mais en plus, il y a de la vie, ça bouge tout seul. Et on est absolument incapable de reproduire la vie. Et Dieu va faire des milliards et des milliards de ces êtres vivants. Et ces espèces. Alors, ce qui est libre dans la révélation biblique, c'est que des espèces aient pu, par mutation, se transformer, par exemple, chez les félins. Mais il est difficile de croiser un chat et un lion. Au point de vue de l'ADN, c'est compliqué, c'est pas la même chose. Comment Dieu a créé les différentes espèces de différents genres? Eh bien, c'est forcément par un acte de puissance et d'intelligence. Vous voyez, les animaux qui ont des mâchoires pour déchirer la chair n'étaient pas herbivores, n'en déplaise à ceux qui vont dire « Mais au début, c'était la paix et l'amour, alors donc c'est pas possible que Dieu ait créé des animaux qui se mangent. » D'autant plus que même dans l'eau, c'est en permanence, vous voyez, un supermarché. Tout le monde mange dans l'eau. Et se mange en permanence pour vivre. Ah mais c'est méchant. Ah oui, mais il n'y a pas de vegan dans l'océan. C'est... Alors est-ce qu'il n'y a aucun n'est vegan ici? Non, c'est bon. Donc c'est une dégénérescence, vous voyez, de considérer qu'on ne peut même plus manger. D'ailleurs, on les reconnaît, ils sont tout blancs et ils ont des carences, et à la fin on leur donne quand même des comprimés protéinés, des machins, enfin pour tricher. Parce qu'ils vont. C'est bête à dire, hein, mais pour tout ça pour vous dire que cette création, elle est impressionnante. Lorsque Dieu décide de ces différents êtres, il y a une fantaisie absolument incroyable. On découvre actuellement à 3000 mètres de fond des êtres qui ne peuvent pas vivre à la surface, qui sont faits pour supporter 3000 mettre d'eau au-dessus de leur tête. Ça les comprime, vous voyez. Quand ils sont à la surface, ils se dilatent comme des baudruches. Ils sont faits pour être comprimés par la pression de l'eau. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y en a qui ont des yeux et qui sont devenus aveugles avec le temps. Oui, mais la cécité ne se transmet pas. Il y a une véritable fantaisie divine à cette diversité qui nous entoure. On vous concède des micro-évolutions, mais on vous ne concède pas l'évolution par le hasard et le temps. Il y a un être intelligent qui fait que les araignées ne se sont pas dit un jour, on va faire des toiles. Et à chaque espèce d'araignée, sa toile. Et à chaque papillon, ses ailes et ses couleurs. À certains papillons, un camouflage incroyable. Et toujours pas par hasard. Quand vous avez des papillons qui, en ouvrant leurs ailes, ont une tête de serpent, c'est pas par hasard. Quand vous avez des papillons qui ont des ailes en forme de feuilles mortes, avec en plus la tige, c'est pas par hasard. Quand vous avez des mantes religieuses qui ont des pattes en brindilles marron, et quand elles s'arrêtent, on a l'impression d'une branche, ce n'est pas par hasard. C'est Dieu qui s'amuse. Quand vous avez des parades nuptiales d'oiseaux, absolument invraisemblable, où le mâle est le plus beau au point de vue des plumes par rapport à la femelle, parce que c'est le mâle qui séduit la femelle. Par rapport à l'être humain, c'est amusant, il y a des inversions, il y a des comparaisons. Et vous avez une parade nuptiale d'un oiseau qui met ses ailes en arc de cercle et qui les tourne comme ça, avec des reflets invraisemblables, vert, bleu. Le paon a une queue pour la femelle, hein, pas pour, c'est pas pour nos appareils photo. C'est pour attirer sa femelle et s'accoupler. Et c'est ça, une splendeur. Et vous allez me dire, oh là 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 là, tous les oiseaux moches qui ont dû mourir avant, et par la sélection naturelle, celui qui avait les plus belles plumes a survécu. Et tous ceux qui avaient les yeux, je ne sais pas, au niveau du ventre ou sous les pieds, qui sont morts bêtement. Tous ces singes qui, comment dire, au début avaient des branchies à la place des poumons. Quand un poisson qui a forcément évolué et qui a trouvé à un moment des poumons. Mais filtrer l'eau avec des poumons, c'est extrêmement difficile. Essayez dans une piscine à Paris. Et respirer très fort, mais cependant, les embryons et les bébés filtrent l'eau. Ah, c'est une preuve qu'on était des poissons. Oui, mais ça continue pas après. Hein. Franchement, méfiez-vous. Eh bien, voyez, toute cette intelligence et toute cette fantaisie qu'il y a dans la création, là, on va être un peu plus sérieux. Les anges le contemplent, s'interrogent. Et Dieu va leur faire une révélation très particulière, qui est l'épreuve des anges. C'est la coutume, hein. Dans la tradition religieuse biblique, on considère que Lucifer est tombé à cause de ça. Dieu a révélé aux anges, je vais m'incarner, je vais m'unir à cette nature matérielle que vous voyez. Bon, je ne vais pas m'unir à une pierre. Et là, ils ont fait, ouf, oui. Je ne vais pas m'unir au soleil ou à une planète, ouf, ça ne sera pas Gaïa. Oui. Vous savez, avec l'arbre aux âmes ou l'arbre machin qui, vous prenez les branches et puis la planète vous parle et tout. Ça, c'est uniquement dans Avatar. Hein. Mais c'est pas... La planète vit pas. Gaïa a pas une pensée. Mais il leur dit, voilà, vous avez vu, je vais créer un être qui viendra du monde animal que j'ai créé, et qui aura un esprit comme vous. Et c'est pas avec le temps qu'un singe, ayant éternué tellement violemment qu'il a perdu tous ses poils à certains endroits, et qui ensuite a commencé à penser et à parler. C'est une autre nature que de penser et de parler. Et c'est pas lié à la grosseur du cerveau. Le cerveau étant un amas de neurones qui nous permet d'enregistrer les images et les sensations. Mais l'âme animale qui a une véritable mémoire n'a pas l'intelligence du pourquoi des choses. Le chat qui se met sur le coffre, sur le capot d'une voiture qui a roulé dans le garage la nuit, parce que la voiture vient d'être rangée et que le moteur est chaud, ne saura jamais pourquoi c'est chaud. Mais c'est chaud et il se met sur le capot. Un chien qui ouvre une porte en mettant ses deux pattes sur la poignée ne saura jamais ce que c'est qu'une serrure et qu'une poignée. Mais il a constaté, il a vu et il a mémorisé quand on touche cet endroit, la porte s'ouvre. Mais voyez-vous, il ne va pas concevoir ce que c'est qu'un pen. Il ne va pas concevoir ce que c'est qu'un la libération et un ressort. C'est l'homme, lui, qui va le faire. Et je vais même aller plus loin. Un chien ne sait pas ce que c'est qu'un chien. Comment vous pouvez dire ça ? Parce que, voyez-vous, le premier degré de pensée, c'est le premier degré d'abstraction, c'est de reconnaître ce qu'est un être. Or, les chiens ne savent pas ce que c'est qu'un chien. Ils le reconnaissent, ils le sentent, c'est dans leur instinct. Mais ils ne savent pas ce que c'est qu'un chien, c'est-à-dire un animal avec quatre pattes, une queue, un museau particulier, des oreilles qui tombent un peu plus sur la tête, et une truffe, enfin... Et des crocs, et bien ils savent pas ce que c'est. Parce que s'ils savaient ce que c'est, premier degré d'abstraction, la nature d'une chose. Par exemple, une chaise. Une chaise, c'est un plan horizontal avec quatre pieds et un dossier. Un fauteuil, c'est deux bras supplémentaires. Une chaussure, c'est une semelle et ce qui recouvre la chaussure. Entièrement chaussure. Sandales, c'est des lanières. Et il n'y a que l'homme qui puisse décrire par une définition. Vous voyez, par la cause matérielle et la forme des choses. Deuxième degré d'abstraction, c'est de compter les êtres qu'on a reconnus. Les animaux ne savent pas compter. Aux dernières recherches scientifiques, on attribue à des poissons la possibilité de compter. On a essayé de voir par l'attitude d'un poisson qu'il savait reconnaître un chiffre. Mais on n'a jamais pu prouver qu'un chien puisse compter, ni un cheval. Vous savez, dans les cirques, vous avez celui qui passe des heures et des heures et des jours et des mois et des années à apprendre un tour à un pauvre cheval, hein, qui est beaucoup plus récalcitrant qu'un chien. Hein. Et pourtant, à un moment donné, à un signe imperceptible, le cheval arrête de taper par terre avec son sabot. Enfin, deux et deux. Oh ! C'est plus difficile. Deux fois trois. Oh ! Le cheval sait compter. Et vous voyez, à part ces numéros de cirque, aucun animal ne sait compter. Or, le deuxième degré d'abstraction, les mathématiques, l'algèbre, le fait de compter, de comparer les volumes, il faut d'abord savoir ce qu'on compare. Quand un chien voit trois chiens, il voit ça, ça et ça. Et il le reconnaît comme chien. Mais il n'a pas l'idée chien. C'est trois choses qu'il voit. Tandis que nous avons l'intelligence. On voit un chien, un chien, un chien, trois. Je vois 10 arbres. Je vois 58 arbres. Et je les compte. Parce qu'un arbre, c'est des racines, un tronc et des branches. Et je fais la différence entre les espèces d'arbres. Il y a les bouleaux, il y a les chênes, il y a les platanes. Alors ne demandez pas à un chien de reconnaître un berger allemand d'un charpais et d'un caniche. Tout cela, voyez-vous, c'est ce qu'on appelle de l'apologétique, ce que je vous fais. Mais c'est pour vous dire, en allant très loin et en revenant au plancher des vaches, quand Dieu décide qu'un corps animal va recevoir un esprit intelligent et volontaire, il crée un être spécial et particulier. Et nous ne sommes pas le fruit d'un gorille et d'une guenon. C'est-à-dire que la nature humaine est créée directement. Deux possibilités qu'on concède aux scientifiques dans la révélation biblique. C'est un grand singe sans poils qui reçoit une âme et qui devient Adam. Car il est tiré de la boue, il est tiré du limon de la terre. Mais ce singe a un ADN spécial qu'on ne reconnaît dans aucun autre singe. Et il a les pouces opposés. L'outil universel. Là, le corps humain a été créé spécialement par Dieu, de cette espèce animale. Deuxième possibilité, plus surnaturelle, plus miraculeuse, Dieu crée immédiatement le corps humain. Mais ça froisse les évolutionnistes les plus acharnés. Donc si on peut leur faire des concessions de temps en temps, on leur fait seulement ces concessions-là. C'est que Dieu a conduit la modification de l'ADN du poisson jusqu'au reptile, jusqu'au primate, jusqu'au mammifère, jusqu'à l'homme, par des actions précises sur l'ADN et pas par le hasard. C'est une création par un être intelligent qu'on appelle Dieu. Et à un moment donné, de ces créations des différentes espèces d'êtres et parmi les mammifères, il a mis une âme. L'âme au sens propre du terme, intelligence et volonté. Eh bien, c'est Adam. Et on estime la création d'Adam à environ 6000 ans. Voilà. Actuellement, on est entre 10 000 et 20 000 ans suivant les anthropologues pour l'apparition de l'Homo sapiens sapiens. Dans le compute biblique, on est à 6 000 ans. Demandez aux Juifs. Les Juifs, eux, sont dans l'année 5780 ou 775. Depuis la création d'Adam. Pas depuis la création du cosmos, de la Terre, Puisque si vous voulez, le soleil, la lune apparaissent au troisième ou quatrième temps de la création. La terre elle-même, avec la vie, dans la vie des mers, la vie des océans, apparaît avant même la lumière solaire, à cause de la lumière stellaire et de la vie, n'est-ce pas, que Dieu crée sur la planète Terre. On essaye de trouver de la vie ailleurs, et c'est tout à fait possible. Dieu a pu créer de la vie ailleurs, pas seulement bactérienne, mais intelligente. Ça, si des religieux ont peur de ça, c'est parce qu'ils ont peur, d'une manière générale. Mais l'Église catholique, qui est la gardienne de la foi biblique, dit, s'il y a des êtres intelligents ailleurs, pourquoi pas? S'il y a des ovnis, des extraterrestres, pourquoi pas? Enfin, il y a suffisamment de misère sur Terre pour dépenser trop d'argent à entrer en relation avec ces gens-là. Mais, voyez-vous, l'important, c'est de bien comprendre que de tels êtres, de la membrane de la cellule jusqu'au mammifère le plus complexe, ne peuvent pas venir par le pur hasard et le temps. Et quand Dieu va créer Adam, le premier être humain, il lui donne des connaissances intelligentes qui fait qu'il ne va pas mourir là où il est créé et là où il va vivre, entre le Tigre et l'Euphrate, actuellement en Irak, qu'on appelle le Jardin d'Éden. Et c'est un lieu historique où se trouvent, dans toute cette région, les nécropoles les plus anciennes. Vous voyez, c'est pas un chimpanzé ou trouvé dans une plaine d'Afrique qui va faire l'origine de l'homme. C'est là où les hommes ont laissé les traces archéologiques les plus anciennes et les plus profondes. La Babylonie. Mais bon, là, il faut, toujours être prudent à ne pas vouloir plus prouver qu'il ne faut. Mais, si vous voulez, vous ne pourrez pas envisager Jésus-Christ sans envisager l'histoire biblique. C'est pas possible. Et vous ne pourrez pas envisager les miracles de Jésus sans conforter l'histoire biblique. Quand Jésus ressuscite des morts, ou quand il guérit des maladies instantanément, c'est le Créateur qui peut faire ça. C'est-à-dire restaurer des cellules, remettre une âme dans un corps. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et c'est ça qui est étonnant, qui est miraculeux. Miror, c'est le regarder avec étonnement, en latin, miror. Le miroir, c'est ce qui se regarde et ce qui reflète. Vous voyez ? Miracle, c'est ce qui étonne les yeux. Vous voyez, vous avez Lazare qui a commencé sa décomposition et qui sent très mauvais comme un bon cadavre. On ouvre la porte du tombeau creusé dans le rocher et là vous avez une atmosphère pestilentielle qui sort. Je peux vous assurer, moi, il y a un cercueil dont on a ouvert 5 cm pour le faire entrer dans un caveau et qui attendait depuis 3 mois pour entrer dans le caveau. Ils ont scié pour que ça rentre. Il y avait une ouverture de 5 cm sur 2 cm. C'était au cimetière de Montparnasse. Sur 100 mètres, c'était une odeur absolument épouvantable. Imaginez un peu, une pierre roulée devant une entrée. Marthe dit à Jésus, ça sent, hein. Si on ouvre la pierre, ça va être un scandale. Hein. Ouvrez ce tombeau. Lazare sort. Et en plus, il sort en volant. Et il se met au début du tombeau. Parce qu'il est encore entouré par des bandelettes. Il n'est pas sorti en marchant. Dieu a reconstitué son corps pourri, a remis son âme. Et ils l'ont libéré. Et les Juifs étaient là. Je peux vous assurer que les 300 à 500 Juifs qui étaient présents à la résurrection de Lazare, eux ont cru et on en parlait, et ensuite on venait de Jérusalem par centaines pour voir Lazare au village de Béthanie. Celui qui était mort et qui était maintenant vivant. On voulait le voir, ça. Quelle curiosité! Eh bien, voyez-vous, l'épreuve de Lucifer, c'est que Dieu, avant toute l'histoire humaine et avant même le péché, a dit aux anges: voici mon premier-né qui entre dans le monde. Ma parole éternelle va s'unir à ce corps humain et à une âme humaine. Voilà. Ce qui vous montre une chose, avant qu'on développe, c'est que Dieu aime profondément sa création. Et il aime profondément l'humanité. Car il a révélé aux anges qu'il s'unirait à la nature humaine, qu'il serait un petit bébé et qu'il entrerait dans le monde. Et il dit à ses anges: adorez-le, c'est ma parole éternelle, c'est moi, c'est mon fils, mes fils consubstantiels, c'est pas un deuxième Dieu, c'est moi. Et les anges, si vous voulez, devant un être aussi fragile et limité, de croire que Dieu, la divinité, habitait en cet être fragile, par pur amour. Si vous voulez, pour Lucifer, ça a été trop. Il a refusé d'adorer Dieu fait homme, uni à sa création. D'autant plus qu'il aurait pu s'unir à un ange. Et pourquoi pas lui ? Entrez dans la psychologie de Lucifer, qui est un être qui existe vraiment. C'est vraiment une personne, Lucifer, c'est vraiment quelqu'un. Satan, Lucifer, c'est vraiment quelqu'un, c'est pas une idée du mal. Hein. C'est un quelqu'un, c'est quelqu'un, avec sa propre vie, ses propres pensées. Et il s'est révolté contre Dieu parce qu'il a été vexé, humilié, que Dieu ne l'ait pas aimé spécialement plus que les autres. C'est ça l'origine du péché de Lucifer. Vous voyez, c'est beaucoup plus concret qu'on ne pense. Et il a dit: je n'adorerai pas, non serviam, je ne servirai pas. Et là vous avez un archange qui est un ange inférieur en beauté, en science, en nature, Michel, qui a dit: mais comment oses-tu ne pas écouter Dieu et le suivre? C'est lui qui sait. Nous devons essayer de comprendre sa volonté. Et la question et l'expression qu'il a dite à ce moment-là à Lucifer lui a donné le nom qu'on connaît nous, Michael. En hébreu, ça veut dire qui est Dieu, qui est comme Dieu, qui peut être comparé à Dieu. Pourquoi veux-tu être supérieur à Dieu? Parce que tu es jaloux de Dieu, de la bonté de Dieu. Et un autre archange aurait répondu à la question de Michael: Gabriel. El en hébreu, c'est Dieu, hein, c'est l'Éternel. Gabriel, c'est-à-dire l'homme Dieu. Il reconnaît que Dieu s'est uni à sa création. Et c'est très impressionnant parce que, si vous voulez, quand Lucifer approche d'Adam, l'espace de quelques minutes, et après vous, c'est pas essentiel pour sauver son âme, hein, mais je ne peux pas ne pas vous donner la foi catholique dans son enseignement profond, parce que des évêques et des prêtres actuellement n'y croient plus. Mais c'est l'enseignement profond, donc écoutez quand même. Adam est un homme historique, et Ève est une femme historique. Et Adam et Ève, si vous voulez, Adam, lorsqu'il a été créé, il a été créé adulte. Donc, ou d'un mammifère en qui Dieu a mis un esprit, ou un corps que Dieu a créé directement. C'est plus miraculeux. Mais si vous voulez, Dieu est conscient adulte. Et il est dans la plaine du Tigre et de l'Euphrate, au milieu de cette plaine, avec cette végétation, ces arbres. Il voit les animaux, et il est seul. Et Dieu lui parle comme comme Marie a parlé à Bernadette, comme la Vierge Marie a parlé aux enfants de Fatima, comme Dieu a parlé à des prophètes. Il est dans l'intimité de Dieu qui lui parle par un miracle de parole qu'il entend. Et Adam dit à Dieu, mais pourquoi je suis seul? Si tu m'as créé, si tu es mon père, pourquoi je suis seul? Et Dieu, à ce moment-là, l'endort et prend de sa chair, des cellules de sa chair, et crée à partir de ces cellules un corps féminin. Une modification de l'ADN quand même. Mais Adam a été créé sexué. Vous avez des mythologies qui disent que l'homme a été créé hermaphrodite. Non. Le premier homme était un homme masculin, un être masculin. Et c'était pas seulement pour faire pipi qu'il avait quelque chose entre les jambes. Et donc ça appelait la femme. Et il a attendu que Adam demande sa compagne. Et Dieu a créé Ève. Et imaginez ce premier couple qui est là, et qui vit, et qui est nu, parce que la nature humaine est saine. Et les enfants qu'ils auraient eus, et qu'ils ont eus d'ailleurs, se sont mariés entre eux. L'inceste, c'est entre le père et la mère. On peut se marier entre frères et sœurs. Seulement, ce mariage entre frères et sœurs met la concupiscence dans la famille et empêche la diffusion de la famille. Dès que l'homme est suffisamment nombreux, il doit se marier au-delà de la famille pour nouer des relations et des amours différents. Parce que l'amour entre frères et sœurs est un amour qui s'enferme. Vous voyez ? Mais les premiers êtres, les premiers couples ont été de frères et sœurs, de cousins. Vous voyez ? Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, actuellement, l'inceste est toléré dans les cousins germains. C'est quand même pas très loin, vous savez. Aussi bien dans la législation civile que la législation religieuse, on peut se marier entre cousins germains, c'est-à-dire les petits-enfants d'un frère et d'une sœur. C'est très proche. Mais Dieu va très rapidement interdire le mariage entre frères et sœurs. Mais le mariage entre frères et sœurs, c'est le fait même des enfants d'Adam et Ève. Mais avant qu'ils aient des enfants, c'est l'histoire biblique que je vous donne de plein pot, hein,